Avec tous les appareils ménagers dont elles disposent aujourd'hui, les femmes n'ont vraiment pas de quoi se plaindre.
Tiens, ça c'est vraiment un raisonnement complètement con.
La pelote du sexisme, la chronique qui détricote le sexisme, fil par fil.
Elles représentent la moitié de la population du globe. Elles en ont mis au monde la totalité, ce qui leur vaut depuis l'aube des temps la reconnaissance des hommes.
Garce, salope.
Tirez les fils, un par un, pour comprendre comment ce système s'est tricoté.
Pourquoi ils veulent l'égalité ? L'égalité, elle n'existe pas déjà dans le corps de l'être humain.
Une femme a moins de droits qu'un ficus, d'accord ?
La pelote du sexisme n'est pas prête d'être vide. Bonjour, bonjour. Je suis Diane et vous écoutez La pelote du sexisme, la chronique qui détricote le sexisme fil par fil. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on revienne sur un mot qu'on a déjà croisé plusieurs fois dans cette émission sans jamais s'y arrêter vraiment. On l'a évoqué pour le cinéma, pour le sport, pour la musique ou encore pour le stand-up. Et ce mot, c'est MeToo. Tout commence en octobre 2017 quand l'actrice Alyssa Milano publie un tweet simple. Si vous aussi vous avez été harcelé ou agressé sexuellement, écrivez « moi aussi » en réponse. En quelques heures, des millions de femmes répondent. Mais le mouvement, lui, ne sort pas de nulle part. Le hashtag avait été créé 10 ans plus tôt par l'activiste américaine Tarana Burke pour donner de la visibilité aux survivantes des violences sexuelles, en particulier dans les communautés afro-américaines. Et ce qui déclenche tout en 2017, c'est une enquête du New York Times sur le producteur Harvey Weinstein, accusé par des dizaines de femmes, parmi lesquelles de très grandes actrices, d'agressions et de viols étalés sur des décennies. Ce qui frappe avec MeToo, c'est la vitesse et l'ampleur. En quelques semaines, le mouvement traverse les frontières, les langues, les milieux professionnels. En France, il prend le nom de « Balance ton porc ». Et surtout, il ne reste pas un feu de paille médiatique. Il a des conséquences juridiques concrètes. Selon une analyse de Sciences Po publiée 5 ans après MeToo, le mouvement a entraîné une hausse significative des dépôts de plaintes pour violences sexuelles dans plusieurs pays et a poussé de nombreux secteurs professionnels à revoir leurs procédures internes de signalement. La libération de la parole s'est faite milieu par milieu. Dans le cinéma d'abord, avec la chute de Weinstein, puis en France avec les témoignages contre des réalisateurs ou des acteurs longuement intouchables. Dans le sport, où on a parlé de patineuses, gymnastes, contraintes au silence pendant des années par des entraîneurs tout-puissants. Dans la musique, où des producteurs et des artistes ont été mis en cause. Ou enfin, dans le stand-up, un milieu qu'on imaginait pourtant fait de dérision et de légèreté, mais où le pouvoir de la scène a longtemps permis de faire taire celles qui dénonçaient. Et bien d'autres secteurs encore, la politique, l'université, la médecine ou encore l'armée. Ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement n'a pas seulement fait tomber des individus, il a surtout révélé un mécanisme commun à tous ces milieux, qui est que la concentration du pouvoir entre quelques mains, la précarité de celles et ceux qui en dépendent et une omerta collective protègent davantage le système que les victimes. Mais MeToo, ce n'est pas seulement une histoire de dénonciation individuelle. C'est devenu un phénomène de société qui continue de produire des effets parfois inattendu des deux côtés. Du côté positif, il y a une vraie évolution du regard collectif. Une étude de la Fondation Jean Jaurès montre qu'une majorité de Français considèrent aujourd'hui que la société est davantage consciente des violences sexistes et sexuelles qu'avant 2017. Les entreprises ont mis en place des cellules d'écoute, des formations obligatoires, des procédures de signalement. Le mot consentement est entré dans le langage courant, y compris chez les adolescents, et une génération entière de jeunes femmes, comme on l'évoquait dans la chronique sur le féminisme, se reconnaît aujourd'hui beaucoup plus facilement dans ce mot. Mais il y a aussi un retour de bâton, ce qu'on appelle le backlash. Et il a pris plusieurs formes. La première, c'est cette petite musique devenue un véritable refrain « on ne peut plus rien dire ». Comme si dénoncer des violences équivalait à interdire toute drague, toute séduction, toute plaisanterie. Cette petite phrase, en apparence anodine, a en réalité un effet très concret, c'est qu'elle déplace le débat. On ne parle plus des violences elles-mêmes, mais du prétendu inconfort de ceux qui pourraient être accusés à tort. Or, les chiffres sur les plaintes mensongères en matière d'agression sexuelle restent extrêmement faibles, largement inférieurs à ceux des autres infractions. Ce n'est donc pas tant une réalité statistique qu'une peur diffuse, entretenue, qui sert surtout à minimiser l'ampleur du problème initial. La deuxième forme de backlash, plus insidieuse encore, c'est l'hypocrisie. Plusieurs personnalités épinglées par MeToo n'ont jamais vraiment cessé leur activité. Certaines ont continué à travailler, à produire, simplement avec davantage de prudence ou de discrétion. On a vu des comportements problématiques perdurer, mais en sous-marin, avec moins de témoins, moins de traces. Le problème ne s'est pas réglé, il s'est juste mieux caché. Et puis, il y a une troisième difficulté, plus structurelle celle-là, c'est que la justice peine encore à suivre le rythme de la parole libérée. Le taux de classement sans suite des plaintes pour viol reste très élevé en France. Beaucoup de victimes témoignent publiquement sur les réseaux sociaux, dans la presse, avant même d'espérer une réponse judiciaire satisfaisante. Ce décalage entre la parole sociale et la réponse institutionnelle crée d'ailleurs une forme de fatigue, voire de découragement chez certaines victimes, qui se demandent à quoi bon parler si rien ne change concrètement derrière. Alors 9 ans après ce tweet d'Alyssa Milano, où en est-on vraiment ? Je crois qu'on est à un moment charnière. MeToo, ça a définitivement changé la manière dont on perçoit la parole des victimes. Il a installé l'idée qu'un système de silence organisé n'est jamais une fatalité, mais il a aussi révélé, en miroir, à quel point certains réflexes de protection des agresseurs restent profondément ancrés, y compris quand la société entière semble avoir pris conscience du problème. Ce mouvement n'est donc pas un point de final, c'est plutôt un point de bascule. Il a ouvert une brèche, rendu visible ce qui était tu, donné des mots à des expériences qui n'en avaient pas, mais une brèche, ça ne se referme pas tout seul, et ça ne garantit pas non plus que tout le bâtiment s'écroule derrière. Détricoter le sexisme après MeToo, ce n'est donc pas dire que tout a changé, ni que rien n'a changé, c'est reconnaître qu'un mouvement social peut transformer un imaginaire collectif sans transformer, au même rythme, les structures de pouvoir qui, elles, permettent les violences. Et c'est précisément pour ça qu'on continue d'en parler. Allez, on respire, on continue de détricoter, parce que la pelote du sexisme n'est pas prête d'être vide.
Avec tous les appareils ménagers dont elles disposent aujourd'hui, les femmes n'ont vraiment pas de quoi se plaindre.
Tiens, ça c'est vraiment un raisonnement complètement con.
La pelote du sexisme, la chronique qui détricote le sexisme, fil par fil.
Elles représentent la moitié de la population du globe. Elles en ont mis au monde la totalité, ce qui leur vaut depuis l'aube des temps la reconnaissance des hommes.
Garce, salope.
Tirez les fils, un par un, pour comprendre comment ce système s'est tricoté.
Pourquoi ils veulent l'égalité ? L'égalité, elle n'existe pas déjà dans le corps de l'être humain.
Une femme a moins de droits qu'un ficus, d'accord ?
La pelote du sexisme n'est pas prête d'être vide.